VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Gabi Dorsil et Abdourahman Dia, heureux d'être en votre compagnie dans cette édition du jeudi 29 décembre. À la une ce soir.
En République démocratique du Congo, reprise du dialogue politique entre la mouvance présidentielle et le rassemblement de l'opposition.
Je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur demain.
Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, l'un des délégués de l'opposition au dialogue intercongolais.
Toujours en RDC, un opposant au président Kabila est condamné à 5 ans de prison pour séquestration de soldats.
Au Nigeria, Aboubakar Shekau réapparaît sur la scène et affirme que Boko Haram n'a pas été délogé de la forêt de Sambisa, contrairement aux déclarations officielles.
En magazine, retour sur l'amnistie offerte aux combattants de Boko Haram au Niger.
Guerre en Syrie, nouveau bombardement à Alep malgré l'accord de cessez-le-feu annoncé par la Turquie.
Et les bombardements ont eu lieu à Al-Bab le long de la frontière. Nous aurons bien sûr les pages sport et économie dans moins de 10 minutes, mais tout de suite, le journal.
Direction Kinshasa en RDC, reprise du dialogue sous les auspices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, qui précise que son travail de bons offices s'achève demain vendredi. Une délégation des évêques devrait rencontrer dans la soirée de ce jeudi le président Joseph Kabila avant d'échanger ensuite avec Étienne Tshisekedi, le leader du rassemblement, sur les derniers détails de l'accord. Écoutons Félix Tshisekedi, le fils d'Étienne Tshisekedi, l'un des délégués de l'opposition à ces discussions. Il est au micro de Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Il fallait harmoniser certains points, je ne vous dirai pas lesquels, mais il fallait mettre l'accent sur certains points, bien se comprendre avant qu'ils aillent voir le chef de file de l'autre camp, c'est-à-dire M. Joseph Kabila. Nous attendons donc de leur rencontre des réponses aux questions qui fâchent, on va dire. Donc il y a des questions à régler dont les détails sont importants, donc il faut qu'on se mette bien d'accord. Mais je crois que nous sommes engagés et bien engagés pour bien atterrir en douceur demain. Je crois que ce sera à partir de 15h, sauf imprévu. 15h, demain ici, je crois que ça terminera bien. Nous sommes d'accord dans les grandes lignes. Maintenant, il y a des détails importants, mais des détails quand même, sur lesquels il faut qu'on se mette d'accord. Quand on veut être un leader politique, on pose des actes dans l'intérêt du peuple, même si ceux-ci sont incompris. Et dans un premier temps, on espère que le peuple finira par le comprendre. À quoi ça sert d'être toujours en bagarre et de pleurer des morts plutôt que d'aller vers une solution de sortie? Parce que, en fait, ici, c'est quoi? Ce qu'on avait voulu le 19 décembre, nous l'aurons en décembre prochain.
Félix Tshisekedi à Kinshasa.
Toujours à RDC, des recherches se poursuivaient ce jeudi à Boma, dans le sud-ouest du pays, pour retrouver éventuellement d'autres victimes des inondations qui ont fait 50 morts durant la nuit de lundi à mardi. 10 000 personnes sont sans abri, selon les autorités. Une vingtaine de corps repêchés en territoire angolais devaient être rapatriés aujourd'hui, selon le gouverneur de la province du Congo central, que cite l'AFP. Nous y reviendrons en magazine.
On reste toujours en RDC, Gabi, pour signaler que la Cour suprême de justice a condamné le député Franck Diongo à 5 ans de prison, une sentence qui n'est susceptible d'aucun recours. Cet opposant au président Joseph Kabila est accusé d'avoir séquestré et maltraité 3 membres de la garde présidentielle. C'était le 19 décembre dernier. Son avocat, maître Laurent Onyemba, affirme que le système judiciaire n'a pas respecté les droits de son client. Franck Diongo devait être transféré cet après-midi à la prison centrale de Makala à Kinshasa.
Le premier ministre français Bernard Cazeneuve a assuré ce jeudi à N'Djamena du soutien de la France au Tchad face à la crise économique et sociale que traverse ce pays. Monsieur Cazeneuve a également souligné l'importance du Tchad dans la lutte contre le djihadisme au Sahel. Les précisions de Tatiana Mosso.
Bernard Cazeneuve était accompagné du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, salué par le chef de l'État tchadien avec lequel il fait régulièrement le point sur la lutte régionale contre le terrorisme. Allié stratégique de l'Occident à la jonction entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, le Tchad est en première ligne dans la lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram et contre les djihadistes au Mali. Mais il se débat aussi dans une crise profonde qui secoue le régime autoritaire d'Idriss Déby, au pouvoir depuis 1990 et réélu en avril pour un 5e troisième mandat à l'issue d'un scrutin contesté par l'opposition. Ce pays pauvre de 12 millions d'habitants pâtit de la chute des recettes tirées de la production de pétrole qui plombe son économie et ses finances au moment où il est engagé dans de coûteuses opérations contre Boko Haram. La France s'est engagée à soutenir le pays financièrement et à appuyer des plans d'aide du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Paris soutient aussi l'armée tchadienne, une des plus solides de la région, en lui fournissant renseignements, appuis logistiques et matériels. Bernard Cazeneuve a aussi rendu visite à la force française anti-djihadiste Barkhane, dont le QG est également basé dans la capitale tchadienne et qui mobilise près de 4000 hommes dans 5 pays du Sahel, Mali, Tchad, Niger, Burkina Faso et Mauritanie.
Tatiana Mousso, dans une nouvelle vidéo diffusée ce jeudi, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, conteste les affirmations du gouvernement nigérian selon lesquelles son groupe a été chassé de la forêt de Sambisa, un de ses derniers bastions dans le nord-est du pays. Les explications de Dili Diko.
Aboubakar Shekau, entouré de combattants cagoulés et armés, a affirmé aujourd'hui dans une vidéo de 25 minutes qui aurait été tournée le 25 décembre que Boko Haram est en sécurité. Le chef djihadiste a ajouté « Nous n'avons été chassés de nulle part. Les tactiques et les stratégies ne peuvent pas révéler notre position, sauf si Allah le veut. » Cette vidéo est apparue suite à la déclaration du président nigérian Muhammadu Buhari, qui avait fait savoir samedi que l'armée avait écrasé Boko Haram dans la forêt de Sambisa, où elle menait des opérations depuis plusieurs mois. Il souligne aussi pour la énième fois que le conflit entrait dans sa phase finale. Shekau, dont la mort a été annoncée à de nombreuses reprises par les autorités nigérianes, apparaît en bonne forme sur cette nouvelle vidéo. Si l'annonce de la reprise de la forêt de Sambisa est une bonne nouvelle, de nombreux insurgés n'ont toujours pas été capturés par l'armée. Boko Haram, qui avait prêté allégeance au groupe État islamique en 2015, est par ailleurs déchiré depuis plusieurs mois par des luttes de pouvoir entre factions rivales.
En Angola, la richissime Isabel dos Santos, fille du président José Eduardo dos Santos, a eu gain de cause face à un collectif de juristes qui demandait que sa nomination à la tête de la Compagnie nationale de pétrole soit annulée. Aujourd'hui, sans surprise, la justice a tranché en sa faveur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, l'armée syrienne a annoncé un accord prévoyant un arrêt total des opérations militaires qui doit entrer en vigueur à minuit sur tout le territoire syrien. Une initiative confirmée par la principale formation de l'opposition en exil. Dans le même temps, la Russie annonce la réduction de sa présence militaire en Syrie. On fait le point avec John Linden.
L'accord est parrainé par la Russie et la Turquie, deux pays très impliqués dans le conflit en Syrie, où ils soutiennent des partis adverses. Ankara appuie les rebelles, tandis que Moscou, tout comme Téhéran, est un proche allié de Damas. Cet accord, qui a été négocié sans la participation des États-Unis, exclut toutefois les djihadistes du groupe État islamique, ainsi que ceux du front al-Nosra. La coalition nationale syrienne, principale formation de l'opposition en exil, a apporté son soutien au cessez-le-feu, selon son porte-parole Ahmad Ramadan. La trêve, de même que la signature d'un document sur des négociations de paix, ont également été confirmées à Moscou par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a par ailleurs annoncé une réduction de la présence militaire russe en Syrie. Toutefois, des avions russes ont bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi des cibles du groupe État islamique dans le secteur sud d'Al-Bab, bastion djihadiste que des rebelles syriens appuyés par Ankara tentent de prendre.
Les forces irakiennes ont lancé la deuxième phase de leur offensive pour reprendre totalement la partie orientale de Mossoul, au groupe djihadiste État islamique qui contrôle la deuxième ville du pays depuis plus de 2 ans. Depuis le début de l'offensive le 17 octobre, les soldats irakiens et leurs alliés ont pris le contrôle de plusieurs quartiers de l'est de Mossoul. Cependant, les djihadistes continuent d'occuper la partie ouest de la ville.
L'administration Obama s'apprête à annoncer des mesures de rétorsion contre la Russie qu'elle accuse de piratage informatique pour influer sur les élections et faire élire Donald Trump. Mais le président élu a aussitôt réagi en déclarant qu'il fallait tourner la page et passer à autre chose, refusant d'accuser directement Moscou.
Le gouvernement italien nie à ce stade l'existence de réseaux en Italie soutenant Anis Amri, l'auteur présumé de l'attentat de Berlin. après qu'un procureur antiterroriste a déclaré que des milieux criminels dans le pays apportaient un appui logistique. La police italienne mène une enquête sur les anciennes connaissances du Tunisien de 24 ans qui a vécu dans ce pays, où il a été emprisonné d'ailleurs pendant 4 ans avant de se rendre en Allemagne.
Toujours en Italie, l'Italie qui assumera à compter de dimanche la présidence tournante du G7. Ses priorités, selon son premier ministre, les flux migratoires en Méditerranée et les relations avec la Russie. Paolo Gentiloni a indiqué que pour ce qui est de la Russie, il ne s'agit pas de renoncer aux principes, mais d'éviter de revenir à des logiques de guerre froide qui n'ont pas de sens dans la situation actuelle. Nous avons cité, bien sûr, la Russie est suspendue du G7 depuis 2014 en raison de l'annexion de la Crimée.
En Israël, Benjamin Netanyahou va être bientôt entendu par la police, selon la presse locale. Cette révélation a été faite après que le procureur a donné son accord pour l'ouverture d'une enquête pénale contre le Premier ministre. Les médias israéliens ont notamment rapporté que l'enquête pénale portait sur 2 chefs d'accusation relatifs à des pots de vin et des activités financières frauduleuses. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Suite à un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco présentée ce soir par Salwa Diafari.
L'industrie du cacao est au plus mal en Côte d'Ivoire. Selon Bloomberg, les fèves s'accumulent dans les ports et les entrepôts du pays, premier producteur mondial, suite à une chute des prix qui a incité certains exportateurs à suspendre leurs transactions. La Côte d'Ivoire exporte environ 80% de sa production émanant de 2 récoltes annuelles. Les fèves s'accumulent également dans les fermes où les producteurs se voient proposer des prix inférieurs de 900 à 950 francs CFA le kilogramme. Côte d'Ivoire toujours, le gouvernement a annoncé la construction de 2 centrales thermiques au charbon de 350 MW dans la ville de San Pedro pour répondre à la demande croissante d'électricité. Une première centrale devrait être achevée en 2020 et la seconde en 2021. D'après les données collectées par le Centre d'analyse et de recherche sur la politique économique et sociale du Cameroun, près de 70% des entreprises créées entre 2010 et 2015 n'ont pas survécu au mois de mai 2016. L'absence d'assistance, la peur, la recherche du gain facile ou encore le mauvais encadrement sont cités dans ce rapport comme facteurs expliquant que près des 2/3 des 40 502 entreprises créées au Cameroun depuis 2010 ne sont pas parvenues à pérenniser leur activité.
Nous passons tout de suite à la page sport avec Eric Manirakiza. Salut Eric.
Salut Gabi.
Championnat d'Angleterre de Premier League. La 18e journée a été clôturée hier soir.
Menée après 69 secondes de jeu, Tottenham a renversé la vapeur contre Southampton de Claude Puel. 4-1. Le club reste donc dans la course pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Le leader Chelsea, son dauphin Liverpool, mais aussi Manchester City et Arsenal l'ont gagné pour le Boxing Day. Et Tottenham devait absolument s'imposer sur la côte sud de l'Angleterre, sous peine de décrocher au classement.
Et le marathon de la 19e et de la 20e journée commence à Hull.
Tout à fait, Chelsea vise le record. Hull City reçoit Everton vendredi à 20h GMT. Pour lancer le marathon anglais du nouvel an, un bloc de 2 journées, les 19e et 20e, disputé en 6 jours, tandis que Chelsea part en chasse du record de victoires consécutives. Liverpool 2e accueille Manchester City 3e samedi à 17h30 GMT dans l'affiche de la 19e journée avant de se déplacer moins de 48 heures plus tard à Sunderland lundi à 15h GMT. Les Citizens eux aussi vont jouer 2 fois en 3 jours puisqu'ils reçoivent Burnley lundi à 15h GMT. En clôture de la 20e journée, Gabi, le leader Chelsea reçoit Stoke samedi à 15h GMT, puis se déplace à Tottenham mercredi 20h GMT. En cas de succès, Chelsea portera sa série à 13 puis 14 victoires de suite, ce qui serait un record en Premier League.
Eric, est-ce que la Chine est devenue le nouvel Eldorado du football?
L'Argentin Carlos Tevez peut la tester, Gabi. L'attaquant a signé un contrat avec Shanghai Shenhua qui lui a offert un pont d'or, une rémunération estimé à 40 millions d'euros par saison sur 2 ans. Tevez a revu immédiatement ses plans alors qu'il avait programmé sa fin de carrière dans son club de cœur Boca Junior.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, en direct de Washington DC, Abdourahman Dia et Chérubin Gabi Dorsil. Place maintenant au dossier du jour. Notre première escale ce soir, Abdou, c'est Niamey.
Oui, le Niger qui a annoncé hier un programme d'amnistie aux combattants de Boko Haram qui déposeraient les armes. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum après qu'une trentaine d'ex-combattants de la secte nigériane de nationalité nigérienne ont annoncé qu'ils abandonnaient leur mouvement djihadiste. Des programmes similaires existent déjà dans des pays comme l'Algérie ou la Mauritanie. Mais sont-ils vraiment efficaces? La réponse du journaliste mauritanien Samba Moussassi, spécialiste du terrorisme.
C'est une approche en vue de la résolution de ce problème de l'extrémisme combattant qui a démarré d'abord en Algérie, qui a fait un programme similaire, qui a été le premier pays à mettre en place un tel programme, c'est-à-dire coupler une action militaire énergique avec une ouverture vers ceux qui n'ont pas, en tout cas, des mains attachées par du sang, pour qu'ils puissent réintégrer dans la vie de tous les jours. En Mauritanie aussi, la même approche a été entamée par le gouvernement, qui a organisé une sorte de programme à double voie, une voie militaire, c'est-à-dire le renforcement des capacités militaires des pays, mais en même temps, essayer de rapprocher les éléments qu'on appelle ici, entre guillemets, égarés, en fonction d'un programme de réinsertion, de prêts financiers, de financement de petits projets, etc., pour qu'ils puissent s'intéresser. Parce qu'en fait, l'analyse est faite que la plupart des jeunes qui sont recrutés par ces mouvements extrémistes ne sont pas des éléments, on va dire, convaincus. Mais simplement, c'est l'oisiveté, le chômage qui les pousse dans les bras des recruteurs des mouvements islamistes.
Et pour le cas de la Mauritanie, est-ce que c'est un programme qui marche bien, selon vous?
Écoutez, sur à peu près la cinquantaine d'individus qui ont été concernés par ce programme, je crois qu'on a pu signaler qu'un seul cas de récidive, c'est-à-dire un seul jeune qui a peut-être rejoint les rangs des combattants islamistes. Mais les autres mènent une vie normale au milieu des autres. Enfin, chacun doit engager une activité et apparemment laisser tomber la voie des armes pour régler ces problèmes-là.
Justement, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance à un ancien extrémiste qui cherche à réintégrer la société? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre un programme de surveillance de ces personnes-là?
Oui, il y a forcément un risque important que ces jeunes profitent simplement de l'amnistie offerte pour aller rejoindre les combattants. D'ailleurs, il y a eu des cas comme ça, aussi bien en Algérie qu'en Mauritanie. Comme je vous ai dit, il y a au moins un cas qui a été signalé. Mais ce risque, la plupart des gouvernements préfèrent le courir plutôt que de rester les bras croisés sans aucune approche. Et je pense que le Niger aussi s'engage sur cette voie parce qu'en fait, on essaie, en mettant la pression sur Boko Haram, la pression militaire, mais en même temps, essayer de tarir les sources de recrutement du mouvement. Mais le seul moyen de tarir les sources, c'est d'offrir des opportunités d'insertion aux jeunes qui seraient enclins à les rejoindre.
Le journaliste mauritanien Moussa Sambassi, que j'ai joint à Nouakchott.
Dans Washington Forum ce jeudi, pour ce dernier numéro en 2016, on revient avec nos invités sur les événements marquants de cette année. Une année électorale chargée sur le continent africain, mais aussi la présidentielle américaine, l'histoire en marche à Cuba ou encore les attaques terroristes à travers le monde. Que retenez-vous de cette année écoulée? Quel personnage politique ou quel artiste aura retenu votre attention? Ou encore quel événement dramatique ou positif retiendrez-vous? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de voaafrique.com et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Un nouveau chef d'état-major pour l'armée burkinabé, le colonel-major Oumarou Sadou, inspecteur des armées de 57 ans, remplace le général Zagré, une nomination qui intervient 2 semaines après une attaque djihadiste contre l'armée, attaque ayant fait 12 morts dans le nord du Burkina. Lona Charles Ouattara est député de l'opposition. Il est aussi colonel de l'armée à la retraite. Joint par Bagassi Koura, il explique d'abord que ce changement était attendu.
C'est une action qui était plus ou moins attendue par la population burkinabé, hein, qui est un changement. Maintenant, la personne qui a remplacé le général, ça, peu importe. Mais au vu de toutes les attaques qui se sont déroulées depuis janvier 2016 jusqu'à ce moment-ci, bon, vous savez que la plupart de ces attaques ont été faites sans aucune réaction crédible de la part de nos forces de défense et de sécurité.
C'est un désaveu pour le général Zagré.
Je ne sais pas trop, mais bon, mais comme je veux dire, un changement à la tête était plus ou moins attendu par la population. Et étant donné que le colonel-major Sadou Oumarou Maïga était jusqu'à ce qu'on le nomme chef d'état-major général des armées, était l'inspecteur général des armées. Bon, mais il n'y avait pas, statutairement, il n'y avait pas mieux pour le remplacer.
Oui.
Parce que l'inspecteur général des armées, c'est quelqu'un qui connaît l'ensemble des armées, pour les avoir inspectées, pour les inspecter très souvent. C'est quelqu'un qui connaît aussi les différentes armes. Donc, par sa position d'inspecteur général des armées, ça veut dire qu'il était tout naturellement indiqué pour remplacer le chef d'état-major général partant.
Le colonel-major Sadou vient du Nord où ont lieu généralement les attaques djihadistes. Est-ce que c'est un atout de venir du Nord?
Non, ce n'est pas lié. C'est pas lié. C'est une simple coïncidence qu'il se trouve à l'heure actuelle, enfin, au moment où on le nommait et qu'il était l'inspecteur général des armées, tout indiquait quand même pour remplacer le premier à partir du moment où il y a nécessité de remplacement. Voilà.
Est-ce que d'autres changements sont attendus?
On ne sait pas ce qui est dans l'esprit du chef de l'État, qui est le chef suprême des armées. Personne ne sait. Mais ce qui est certain, dernièrement, je veux dire, jusqu'à ce que le remplacement soit fait, les populations attendaient qu'il y ait un changement à la tête de l'armée.
Le député burkinabé Lona Charles Ouattara nous parlait de Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Graves inondations dans le sud-ouest de la RDC où des pluies diluviennes ont fait déborder la rivière Kalamu, un affluent du fleuve Congo. Le gouvernement de la province du Congo central, que cite l'AFP, a fait état d'au moins 50 morts. La ville de Boma est particulièrement touchée. Timothée Donangbay a joint sur place Nana Dimbi Bungu, directrice des programmes de radio RTB.
On commence à réparer par des travaux de nettoyage. Ce qui a perdu des maisons, on attend la réaction du gouvernement. Il y a eu la prise en charge des familles sinistrées, notamment ceux qui ont perdu leurs frères, sœurs et docteurs. Alors le gouvernement provincial a pu prendre en charge les charges funéraires, peut-être les frais funéraires, l'achat des cercueils et tous les nécessaires jusqu'à l'enterrement. Hier, on a enterré 22 corps. Aujourd'hui, on n'a pas encore le bilan parce que les navettes continuent au niveau du cimetière. Alors, comme on sort l'école les après-midi, il faudrait attendre dans la soirée pour qu'on ait l'effectif des corps enterrés aujourd'hui. Mais jusqu'à hier, on avait enterré une vingtaine.
Vous parliez tantôt d'importants dégâts matériels. Qu'en est-il?
Il y a des navettes qui se sont écroulées. Il y a des bureaux qui ont perdu les archives, en fait, la documentation nécessaire, notamment à l'INPP ou l'Institut national de préparation professionnelle. Ils ont pratiquement perdu toutes les machines. L'atelier mécanique aussi endommagé. Pratiquement tout, à partir du bureau du directeur provincial lui-même. Au commissariat maritime, là aussi, toute la documentation est partie. Et les ordinateurs aussi. Il y a au niveau du budget, je parle de services étatiques, au niveau du bureau de budget contrôle, là aussi, toute la documentation est partie.
Vous-même, Nana, avez perdu votre matériel professionnel.
Au niveau des médias, la RTB a perdu quelques matériels. Personnellement, comme l'eau a pénétré le bureau, j'ai perdu mon ordinateur. Là, il y avait ma bibliothèque, en fait. L'ordinateur de montage, j'ai gardé les archives, tout est parti. Le matériel est foutu. Bon, on est en train de dépanner la caméra, on va voir si ça va marcher. Et voilà, donc le maire est passé. Il a essayé de voir, de répertorier tout ce qu'on a eu comme perte en matériel. Jusque-là, il n'y a aucune réaction, on attend.
Et donc voilà, pour l'instant, on est là, on s'appelle à tenir le bureau, mais on ne sait pas travailler comme à la coutume. Ça fait 4 jours depuis la pluie du lundi, du 26 jusqu'à aujourd'hui. La SN n'a pas encore réhabilité le courant, et donc on ne sait pas fonctionner.
C'était Nana Dimbi Mbungu, directrice des programmes de radio RTB à Boma, en République démocratique du Congo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Suite au vote de la résolution des Nations Unies exhortant Israël à cesser immédiatement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, ainsi qu'à l'élection de Donald Trump affichant clairement son positionnement pro-israélien, l'avenir de la Palestine suscite beaucoup de questions. Pour un éclairage, Dili Diko a joint Rachad Antonius, professeur de sociologie et spécialiste du monde arabe à Montréal.
Je crois que l'avenir est sombre pour la Palestine, avec ou sans Trump. C'est-à-dire que l'administration Obama n'était pas beaucoup mieux. Et elle était différente dans le langage utilisé pour parler, dans l'agressivité visible. Il n'y avait pas beaucoup d'agressivité dans le discours d'Obama, mais il y en a beaucoup plus dans celui de Trump. Mais au niveau des politiques elles-mêmes, la différence n'est pas très grande. C'est-à-dire que ce que Kerry a proposé est exactement ce qui était dans les accords d'Oslo il y a 23 ans. Et ça n'a pas été mis en œuvre. Donc en 23 ans, on n'a pas bougé beaucoup. Non seulement on n'a pas bougé, mais on a reculé parce qu'il y a plus de colonies aujourd'hui, c'est beaucoup plus de contrôle israélien aujourd'hui que lors des accords d'Oslo en 1993. Et donc, je ne crois pas que la différence va être majeure entre les deux.
Quel recours aujourd'hui pour la Palestine ? Actuellement, qu'est-ce que les Palestiniens peuvent faire pour se sortir de cette situation ?
Il s'agit d'un rapport de force, parce que au niveau du droit, le droit international est du côté des Palestiniens, non pas qu'il les favorise, mais qu'il minimise leurs pertes. Le droit officiel, le droit international, dit que les colonies sont illégales, que Jérusalem est occupée, que les réfugiés ont le droit de retourner chez eux ou d'être compensés. Donc le droit est en faveur d'une solution négociée à peu près acceptable. Mais la question est une question de rapport de force international. Et pour le moment, tant que les États-Unis qui appuient Israël jusqu'au bout et qui sont quand même une puissance très importante, tant que les États-Unis ne sont pas critiques d'Israël, il n'y a pas de solution. Ça va aller de mal en pis. Et si ça va très mal, ça risque de se retourner contre Israël parce qu'Israël n'aura plus le choix à un moment donné que d'accepter un État unique où les Palestiniens vont revendiquer des droits comme tous les citoyens, où la nature d'apartheid du régime va être plus visible. Et à ce moment, la situation va changer complètement, mais ça peut prendre encore 20 ans. Donc, pour le moment, je vois que la situation est plutôt sombre. Les Palestiniens n'ont pas beaucoup de recours parce que les puissances internationales continuent à appuyer Israël.
La communauté internationale peut-elle faire quelque chose aujourd'hui ?
La résolution reste symbolique. C'est des mots dans une assemblée. En fait, pour le moment, c'était le Conseil de sécurité. Ça ne reste que des mots. Et le problème fondamental va être de faire des pressions efficaces contre Israël. Et pour le moment, la communauté internationale n'est pas prête à le faire. Donc, dans un avenir prévisible, je ne vois pas que la communauté internationale va faire quelque chose de différent de ce qu'elle a fait durant les dernières années.
Rachad Antonius, professeur de sociologie et spécialiste du monde arabe à l'Université du Québec, joint par Dili Diko.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnon est à la mise en onde et Rachad Lama à la console. Présentation Abdourahman Dia et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'infos, 24 heures sur 24, le rendez-vous est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur notre site internet voafrique.com.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.